Histoire au Quercy. L'histoire de notre diocèse racontée par Étienne Beau.
Dans la précédente causerie, nous avons évoqué l'œuvre religieuse de Mgr Paul Chevrier. Cette œuvre religieuse que nous avons définie par ses efforts en faveur de l'enseignement chrétien, efforts qui ont été largement couronné de succès, par ses efforts également vis-à-vis de son clergé, avec là une situation beaucoup plus préoccupante, avec la diminution des vocations et la fermeture du grand séminaire en 1958. Nous avons évoqué son action en faveur du peuple de Dieu et des grandes célébrations qu'il a présidées, avec une totale disponibilité. Nous avons dit aussi combien il a été bien secondé par son entourage, riche en fortes personnalités qui étaient ouvertes aux problèmes du temps. C'est là une des grandes caractéristiques de son épiscopat. Parmi ces personnalités, le chanoine Mamoul, le chanoine Dablan, le chanoine Gaillac, Monseigneur d'Araki. Mais aussi un groupe de jeunes prêtres qu'il recevait, et Mgr Gauzin, dont j'ai recueilli le témoignage, souligne combien il savait les écouter. En effet, Paul Chevrier était de tempérament contemplatif, quasi monacal. Cela risquait de développer autour de lui un climat de solitude. Ce qui fait qu'il s'est forcé à écouter et à recevoir. Ce qui fait que il a su, c'est ça sans doute l'essentiel, approuver et soutenir des activités extérieures qu'il n'aurait jamais sans doute lui-même initiées ou suscitées. Et Mgr Gauzin l'a souligné, cette attitude ne manquait pas de grandeur. C'est là sans doute un des signes majeurs de son épiscopat. Il se laissait donc convaincre, dès lors qu'il comprenait le véritable intérêt et l'enjeu de ce qu'on lui proposait. Nous en avons des exemples. Par exemple, en faveur d'une pastorale renouvelée, harmonisée, cela sous l'influence du chanoine Mamoul, certainement, en faveur aussi des mouvements de jeunesse qui étaient très florissants alors, les patronages, étant donné que les associations sportives ou les groupes de l'enseignement public étaient beaucoup moins répandus qu'ils n'étaient aujourd'hui, c'était très souvent dans les paroisses le patronage du curé qui rassemblait la jeunesse, avec le cinéma, avec des projections, avec toute une série de distractions, d'excursions, de pèlerinages. Patronage, par conséquent, très important pour fédérer la jeunesse. Des colonies de vacances, nous les avons évoquées. La JAC, soutenue par Paul Chevrier, tout comme il l'avait fait dans son diocèse d'origine, nous l'avons dit, en son temps. Cette JAC qui a été un ferment très actif dans l'ouverture des campagnes lotoises, qui était alors très peuplée, beaucoup plus peuplée qu'aujourd'hui. Cette JAC qui a fait beaucoup pour une pastorale renouvelée, certainement, mais qui organisait des conférences, qui organisait des voyages, même des voyages à l'étranger. Et on voit souvent dans les campagnes aujourd'hui encore des personnes d'un certain âge qui évoquent cette ouverture qui a été la leur grâce au dynamisme de la JAC. D'autres mouvements de jeunesse plus spécifiques comme les cœurs vaillants, âmes vaillantes et le scoutisme masculin et féminin. Mgr Chevrier, réticent au départ pour le scoutisme féminin, a fini par admettre l'établissement de troupes de guides de France, ce fut plus difficile, et celui qui est à l'origine de cette organisation pourrait aujourd'hui encore en rappeler les étapes. Par conséquent, un évêque à qui on a pu reprocher certaines lenteurs, certaines, je ne dirais pas paresse bien entendu, mais certaines incapacités à affronter la modernité, a su écouter ceux qui lui suggéraient telle ou telle mesure. Il se laissait donc convaincre et il agissait en fonction de ce que on l'avait persuadé, parfois assez difficilement, mais d'une manière générale, il se laissait persuader. Et ça, je crois que cela mérite beaucoup d'être salué. Il a dû également intervenir en ce qui concerne la politique, pour employer un mot très général. Il a soutenu le mouvement Pax Christi. Ce mouvement Pax Christi qui était un mouvement de paix qui devait concurrencer un peu les mouvements de paix qui avaient été initiés par des partis de gauche ou d'extrême gauche. Le mouvement de la paix, par exemple. Pax Christi qui a eu, dans ces années-là, avant 1965, dans cette ambiance de guerre froide qui était celle que connaissaient la France et tout l'Occident à ce moment-là, un regard chrétien sur la politique. En 1958, au moment du changement de régime, il a ordonné une semaine de prière pour la France et en novembre 1958, au moment des élections à l'Assemblée nationale, conformément aux vœux des évêques de France d'ailleurs, il a rappelé très vigoureusement à ses diocésains le devoir de voter et les responsabilités des citoyens en tant que chrétiens. Il y avait donc chez lui une grosse part de disponibilité face à tous ces problèmes. Malgré tout, il y a un pessimisme foncier chez lui. Il évoque ainsi les progrès du matérialisme athée. C'est l'époque où le marxisme est une sorte de pensée ordinaire chez les intellectuels notamment, et dans la société civile, et il proteste vigoureusement. Il parle de cris arrachés par la torture dans les camps de concentration. Je le cite encore, « Une immense tache d'ombre couvre le monde sur des contrées fermées par un cercle de fer. » Pessimisme donc, un homme dérouté, par un monde, un homme dérouté, par un monde, je cite encore, déréglé dans sa marche et dans ses désirs. Alors, ce pessimisme a été tempéré par l'annonce du Concile. En effet, le 25 janvier 1959, 3 mois après son élection, Jean XXIII annonça depuis la basilique romaine de Saint-Paul hors les murs qu'il allait convoquer un concile général pour l'Église universelle. La surprise fut absolue et il y en eut beaucoup qui accueillirent cette nouvelle avec un très grand scepticisme. Monseigneur Chevrier, lui, l'a accueilli avec beaucoup de faveur et il parle d'une promesse de lumière jetée sur les problèmes de l'heure. Et par conséquent, il a suivi très attentivement toutes les phases de préparation du dit concile. Nous savons que l'ouverture du concile est le 11 octobre 1962. Monseigneur Chevrier avait démissionné depuis 2 mois. En août 62, il avait 76 ans et il n'a pas vu en tant qu'évêque de Cahors l'ouverture du concile. À 76 ans, il se retire à Velaz, comme l'avait fait en son temps Monseigneur Giray. Quel regard porter sur l'ensemble de cet épiscopat? Un épiscopat difficile, certainement, tant il y a eu de problèmes, parfois tragiques, à résoudre. Mais un homme qui, avec infiniment de bonne volonté, a su les affronter, même si on peut lui reprocher des lenteurs, si on peut lui reprocher des perspectives un peu courtes, a su, grâce à son entourage, bien gérer son diocèse.
Présence à Cahors, 92.5.
Le successeur de Monseigneur Chevrier est André Bréhéré et avec lui, nous abordons le troisième groupe d'évêques qui ont occupé le siège de Cahors. Après les évêques de la défense catholique qui ont dû gérer la tempête de la séparation, nous pensons à Monseigneur Hénard, nous pensons à Monseigneur Césarac. Il y a eu les évêques de la Reconquête et de l'Action catholique, sous les pontificats de Pie XI et de Pie XII, ce sont Mgr Giret et Mgr Chevrier. Et voici maintenant la génération conciliaire, puis post-conciliaire. Cette génération conciliaire, le premier parmi elles est Mgr Bréhéré. Nous aurons ensuite Mgr Rabin et Mgr Guédon. Mgr Bréhéré, qui a été évêque de Cahors 10 ans, de 1962 à 1972. Sa prise, son intronisation, au cours de l'automne 1962, l'amène dans un diocèse venant de son Anjou natal. Il était né le 28 avril 1912 à Saint-Pierre-Mont-de-Limard, dans le Maine-et-Loire, et d'une famille très pieuse, une famille de 6 enfants. Son père était artisan charpentier et il a été élève de l'école chrétienne de son pays natal, puis au petit séminaire de Beaupréau. Il se prépara au sacerdoce au grand séminaire d'Angers et il est ordonné prêtre le 29 juin 1937. Et là, très vite, il s'est consacré, après cette ordination, à ce qui a été l'idéal de sa vie, l'enseignement chrétien. Il est en effet nommé vicaire paroissial de Saint-Rémy en Mauges et en même temps, il prend la direction de l'école chrétienne de cette même localité. C'est-à-dire qu'il fut à la fois directeur d'école et vicaire paroissial, ce qui était certainement une très lourde charge, étant donné que les effectifs des écoles chrétiennes dans cet Anjou dont il est issu étaient considérables dans les écoles chrétiennes. La mobilisation le conduit en septembre 1939 dans un groupe de reconnaissance divisionnaire et il exerce des fonctions d'aumônier auxiliaire. Il est prisonnier à Dunkerque le 4 juin 1940 et transféré en Allemagne dans un stalag, le stalag 6. Il eut l'avantage d'être libéré fin février 1941 et il reprend sa place à Saint-Rémy en Mauges. Son évêque, Mgr Coste, le nomme en février 1942 au secrétariat diocésain de l'enseignement libre, où il acquit une solide expérience et où il a révélé ses qualités d'organisateur. Qualités qui ont été extrêmement appréciées, puisque en 1953, donc 11 ans plus tard, le nouvel évêque, Mgr Chapouly, lui confie la direction du premier degré dans le diocèse d'Anjou, c'est-à-dire 400 écoles. C'est l'époque, nous l'avons vu, où l'enseignement dit « libre » veut obtenir une reconnaissance de l'État, et c'est fait grâce à plusieurs lois, la loi Barranger, la loi Marie, la loi Debré dont nous avons parlé. Mais ceci s'est fait sous la pression de l'opinion publique, au nom de ce qu'on appelait la justice scolaire. Et au nom de cette justice scolaire, le chanoine Bréhéré se multipliait au sein de comités, de réunions, de meetings, et il est devenu ainsi un expert reconnu et consulté dans tout l'Ouest et même au-delà, notamment pour l'application de la loi Debré. Donc ses qualités d'organisateur lui ont valu des responsabilités de plus en plus larges. Il a conservé cette charge lorsque Mgr Veuillot en fit son vicaire général en avril 1960. Lorsqu'il est nommé à 50 ans à la tête du diocèse de Cahors, il a surmonté ses regrets de quitter l'Anjou pour une région qu'il ne connaissait absolument pas. Et ce qu'il y a de plus significatif, c'est que 3 jours après son installation, à peine, à la cathédrale de Cahors, il part pour Rome et pendant 4 ans, il a vécu le concile. Il a vécu le concile en évêque heureux. Ses lettres de Rome, ses conférences publiques à Cahors, à Gourdon, lorsque, entre les sessions, il revenait dans son diocèse, témoignent de son émotion, de la joie de rencontre avec ses frères d'ailleurs, de ses espoirs devant les portes qui s'ouvraient, de sa passion aussi pour un rajeunissement du visage de l'Église. Il y a eu même un numéro du Pèlerin d'octobre 1963 qui a fait de Mgr Bréhéret en quelque sorte l'évêque, un des évêques français type, et qui a décrit sa journée à Rome. Il logeait chez les sœurs de la retraite d'Angers. Ça n'étonnera pas vu les liens d'affection qu'il avait gardés avec son diocèse d'origine. Et c'est là qu'il prenait ses repas. Et l'après-midi, il y avait très souvent des réunions des évêques à Saint-Louis des Français. Dans la crypte de Saint-Louis des Français, cette magnifique église qui porte ce nom, les évêques français avaient l'habitude de se réunir. Ils arrêtaient là leur ligne de conduite 2 fois par semaine. Après quoi, Mgr Bréhéret revenait chez les sœurs de la retraite d'Angers où il prenait son repas et très longuement il travaillait ensuite. D'abord, dans les commissions du concile où il travaillait, bien sûr, puisque les pères conciliaires s'étaient répartis en plusieurs groupes spécialisés qui mettaient ensuite le résultat de leurs travaux dans le débat, et travaille aussi pour maintenir des liens étroits avec son diocèse. C'était un homme qui savait magnifiquement s'organiser et qui, finalement, a su à la fois concilier la connaissance d'un diocèse qu'il ne connaissait pas et son travail conciliaire qu'il a accompli avec beaucoup d'enthousiasme.
Histoire en Quercy. L'histoire de notre diocèse racontée par Étienne Beau.